Bonjour à tous et à toutes. Je suis Loïc Leclerc, je suis le Managing Partner de PwC Société d'Avocats et nous sommes ravis de vous retrouver pour notre traditionnelle présentation de la loi de finances pour 2021. Vous êtes plus de 1500 inscrits ce matin et donc je voulais chaleureusement vous remercier pour votre fidélité. Je voulais également vous présenter les vœux, bien sûr, au nom de l'ensemble des équipes du cabinet pour cette nouvelle année 2021, qu'elle vous apporte à vous, vos proches et vos équipes, santé bien sûr, bonheur et réussite, et donc le meilleur pour cette nouvelle année. L'année 2020 qui vient de s'écouler a été complexe, elle nous a confrontés à de nombreux challenges, nous a souvent obligés à réinventer la façon dont nous avons interagi avec nos équipes, avec vous, nos clients, et vous-même en interne, et également avec vos prestataires et les tierces parties. Donc cette année complexe a été une challenge. Gageons que 2021 soit placé sous le signe du dynamisme, de l'enthousiasme et de la croissance retrouvée. Et donc, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2021, une très bonne présentation de loi de finances pour 2021. Et je passe sans plus tarder la parole à Emmanuel Verras, qui est notre associé responsable des régions et qui sera la madame loyale de cette loi de finances 2021.
Merci Loïc, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est donc Emmanuel Verras, je suis associée au sein du bureau de Marseille de PwC Société d'Avocats et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette webcast consacrée donc aux principales mesures pour les entreprises de la loi de finances pour 2021. Alors cette webcast sera co-animée par différents experts du cabinet que je vais vous présenter dans un instant. Le temps pour moi de vous donner juste quelques mots d'organisation. Nous avons reçu un certain nombre de questions en amont de cette conférence et nous vous en remercions. Nous avons tâché d'y répondre au cours de cette présentation. Si tel n'était pas le cas ou si vous aviez d'autres questions, bien entendu, vous pouvez les poster pendant le live dans le chat réservé à cet effet et nous tâcherons d'y répondre plus probablement à l'issue de cette conférence pour des questions de temps et du respect de l'horaire que nous nous sommes fixés. Donc, je vous le disais, plusieurs experts vont tour à tour vous présenter les évolutions législatives à travers cette loi de finances. Et vous le verrez, ces mesures sont essentiellement des mesures de soutien aux entreprises françaises touchées par la crise Covid. La plus significative d'entre elles est sans doute l'allègement de contributions économiques territoriales, donc la CFE et la CVAE. Ces mesures ainsi que d'autres en matière de taxes locales vous seront présentées par Valérie Hélion, qui est membre de notre département doctrine au sein du cabinet. Notons également des dispositifs temporaires d'étalement des plus-values en cas de réévaluation libre des bilans, en cas de cession-bail, mais aussi des mesures en faveur des bailleurs qui octroient des abandons de loyer à leurs locataires. Ces mesures, comme d'autres en matière d'impôt sur les sociétés, vous seront présentées par Stéphanie Verzura, qui est associée au sein de notre bureau de Lille. Dans la continuité, en matière d'impôt sur les sociétés, on se permettra de sortir quelques minutes du cadre de la loi de finances. Et c'est Dali Ali, pour avoir écorché ton nom, qui est associée au sein de notre département prix de transfert, qui vous présentera un document publié par l'OCDE en fin d'année dernière et qui nous donne quelques recommandations sur l'impact de la crise Covid en matière de prix de transfert. La loi de finances contient également un certain nombre de mesures en matière de taxes indirectes et notamment les entreprises depuis le 1er janvier doivent porter une attention toute particulière aux offres dites complexes ou offres composites. La loi fixe le cadre également d'importantes réformes. Le groupe TVA est introduit dans notre législation pour être complètement opérationnel en 2023. C'est José Manuel Moreno, associé en charge de notre département taxes indirectes, qui vous présentera ces mesures. Et puis, dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, le gouvernement est habilité par la loi de finances à mener cette mesure importante par voie d'ordonnance. Ça sera l'occasion pour Laurent Poy, associé également au sein du département taxes indirectes, de revenir sur ses obligations en matière de facturation électronique et leur calendrier de mise en œuvre. Donc, vous le constatez, un agenda bien chargé et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vous le disais, cette loi de finances comporte de nombreuses mesures en matière de taxes locales. La baisse dès 2021 de la CVAE, de la CFE, mais aussi de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce sont les baisses d'impôts de production souhaitées par le gouvernement et annoncées dans le cadre de son plan de relance en soutien et pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Et c'est Valérie qui va nous présenter ces différentes mesures. Valérie?
Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. En effet, cette année, les mesures de la loi de finances concernant les taxes locales sont nombreuses et nous allons en examiner quatre plus particulièrement. Alors, la première d'entre elles, c'est la baisse de la CVAE. Donc, la loi de finances pour 2021 organise la diminution de la CVAE dès 2021, à hauteur de la part de la cotisation qui revient aux régions, soit 50%. Alors, je vous rappelle pour mémoire que depuis 2016, la répartition du produit de la CVAE entre les différentes collectivités territoriales était la suivante. On avait 50% qui était attribué aux régions, 23,5% pour les départements et 26,5% pour le bloc communal. Donc, la suppression de la part régionale va se traduire désormais par une répartition de la CVAE qui sera la suivante, 47% pour les départements et 53% pour le bloc communal. Et les régions bénéficieront en compensation de la baisse de leurs recettes de l'attribution d'une fraction de la TVA nationale. Alors, en pratique, cette opération va se traduire par une diminution de moitié du taux d'imposition de la CVAE qui passera donc mécaniquement de 1,5% à 0,75% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce montant, le taux applicable sera diminué selon un nouveau barème qui est celui qui apparaît à l'écran. Ensuite, il faut savoir que cette baisse de la CVAE s'accompagne de toute une série de mesures complémentaires, dont la principale est que le taux de la taxe additionnelle à la CVAE est multiplié par 2 et passera désormais de 1,73% à 3,46% afin de neutraliser l'effet de la réforme sur les ressources des chambres de commerce qui donc ne verront pas leurs ressources diminuer. Alors, ce qui est important de noter, comme je vous l'ai dit, c'est que l'ensemble des modifications qui concernent la CVAE s'applique à l'imposition de 2021, immédiatement, sans attendre. Et il est important également de noter que les entreprises pourront appliquer les nouveaux taux de CVAE dès le paiement des acomptes de CVAE qui sont dus, je vous le rappelle, en juin et en septembre. En effet, comme ces acomptes correspondent à 50% de la CVAE due au titre de l'année d'imposition, il sera immédiatement possible de retenir pour le paiement des acomptes ces nouveaux taux. En revanche, attention, les acomptes restent toujours calculés sur la base de la valeur ajoutée de l'année N-1.
Alors Valérie, cette baisse du taux de la CVAE devrait impacter les comptes consolidés de certaines entreprises dès la clôture 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, alors tu as raison Emmanuel sur ce point, puisque la modification du taux de la CVAE, est susceptible d'avoir un impact sur les comptes consolidés clos au 31 décembre pour les entreprises qui classent la CVAE en impôt sur le résultat. Donc ça, il s'agit des entreprises qui établissent leurs comptes en US GAAP ou en IFRS dans l'hypothèse où cette option a été retenue. Pour ces entreprises, la baisse du taux de la CVAE va forcément impacter le montant des impôts différés qui sont calculés en tenant compte des différences temporaires incluses dans les bases de la CVAE. Donc ces impôts différés devront être ajustés dès la clôture au 31 décembre 2020. En outre, comme la loi de finances a été publiée le 29 décembre 2020, ces dispositions seront également applicables à la première clôture intermédiaire intervenue après la publication de la loi, et donc notamment à toutes les clôtures intermédiaires au 31 décembre 2020. Enfin, pour l'exercice 2021, la baisse de la CVAE devrait également améliorer le taux effectif d'imposition de la période. Alors voilà pour la baisse de la CVAE. Autre mesure importante, c'est l'abaissement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Alors, je vous rappelle que le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée est un dispositif qui prévoit que lorsque le montant de la CET d'une entreprise, alors la CET, c'est le montant cumulé de la CFE et de la CVAE, lorsque ce montant excède 3% de la valeur ajoutée produite, eh bien l'excédent peut faire l'objet, sur demande du contribuable, d'un dégrèvement. Pour ce faire, la valeur ajoutée qu'on retient est identique à celle que l'on retient pour le calcul de la CVAE. Alors, l'article 8 de la loi de finances prévoit un abaissement du taux du plafonnement de la CET qui passe de 3% à 2% de la valeur ajoutée à compter des impositions dues au titre de 2021. L'objectif de cette mesure est assez mécanique, en fait, puisque c'est de garantir que toutes les entreprises, y compris celles qui seraient d'ores et déjà concernées et éligibles à ce dispositif, bénéficient pleinement de la CVAE, de la baisse de la CVAE que je viens d'évoquer. En effet, à défaut d'abaissement de ce seuil, le gain lié à la division par deux du taux de la CVAE pourrait être neutralisé en tout ou en partie. Ensuite, autre mesure particulièrement importante, je pense, pour les entreprises, c'est la mise en œuvre de la révision des modalités d'évaluation des établissements industriels. Alors, je vous rappelle que, aussi bien pour la taxe foncière sur les propriétés bâties que pour la CFE, la valeur locative des établissements qualifiés d'industriels est déterminée selon une méthode spécifique que l'on appelle la méthode comptable. Et selon cette méthode, la valeur locative est établie à partir du prix de revient des divers éléments des établissements auxquels est appliqué un taux d'intérêt qui est fixé par décret en Conseil d'État. Alors, jusqu'à présent, ces taux étaient de 8% pour les sols et les terrains et 12% pour les constructions et les installations foncières. Et puis ensuite, un abattement est appliqué à cette valeur locative ainsi obtenue, abattement qui est fonction de la date d'acquisition des biens. Alors, petite aparté importante, vous savez certainement que l'imposition des établissements qualifiés d'industriels est un sujet qui, depuis longtemps, fait l'objet de vives polémiques, dès lors que les modalités de taxation de ce type d'établissement aboutissent généralement à une charge d'impôt plus importante que pour les autres types d'établissements, les autres locaux, type locaux professionnels ou locaux commerciaux. Et également parce que le nombre d'établissements requalifiés en établissements industriels a fortement augmenté au cours des dernières années. Donc, on est face à une situation qui apparaît quand même en contradiction avec les objectifs affichés d'amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment des entreprises industrielles. Donc, l'article 29 de la loi de finances prévoit une baisse de moitié des taux d'intérêt applicable pour le calcul de la valeur locative. Ces taux passeront donc à compter de 2021 à 4% pour les sols et les terrains et à 6% pour les constructions. Donc, il va en résulter mécaniquement une baisse de moitié des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de CFE dès 2021. Donc ça, c'est important. Et puis, j'ajouterais pour finir que pour ces établissements industriels, cette baisse annoncée donc des cotisations va se coupler avec une récente décision du Conseil d'État très favorable aux entreprises et qui concerne la nature des éléments à retenir dans la base d'imposition des établissements industriels. Donc, ces deux éléments constituent indiscutablement une très bonne nouvelle pour les entreprises. Alors, dernier point à mentionner à propos de l'évaluation de la valeur locative des établissements industriels. On peut peut-être passer sur le slide suivant. Voilà, il faut noter que pour bénéficier de cette baisse des impositions, les entreprises n'auront pas à attendre la liquidation définitive de ces taxes à la fin de l'année 2021, puisque la loi précise expressément que les entreprises pourront réduire de moitié le montant de l'acompte de CFE qu'elles devront verser le 15 juin 2021. Donc, l'acompte pourra être ramené à 25% de la CFE mise en recouvrement au titre de l'année précédente au lieu de 50% en principe. de la même manière. Les contribuables qui auraient opté pour le prélèvement mensuel de la CFE et de la taxe foncière pourront demander la réduction de moitié de leur prélèvement effectué au titre de 2021. Donc, la mensualité pourra être ramenée à 5% au lieu de 10% en temps normal. Et cette baisse de l'acompte, c'est important, s'appliquera à compter du mois suivant celui de la demande de l'entreprise. Donc, le message, c'est qu'il faut que les entreprises, si elles veulent bénéficier de cette réduction de leur paiement, fassent la demande le plus rapidement possible. Et dernier point intéressant, c'est que la loi précise, en outre, que la majoration de 5% qui est en principe encourue en cas d'erreur de plus de 20% dans le montant estimé de la taxe ne sera pas mise en œuvre cette année.
Merci Valérie. Voilà. Alors, une dernière mesure prévue par le plan de relance a également été votée et elle prévoit une exonération de CFE pour les créations ou les extensions d'établissements. Est-ce que tu peux nous donner les grands traits de cette mesure ?
Oui, Emmanuel, il s'agit d'une mesure qui va s'appliquer uniquement sur délibération des collectivités locales, comme on va le voir. Alors, petit rappel à titre de règle générale, en principe, les créations d'établissements ne sont imposables qu'à compter de l'année qui suit la création. D'autre part, pour les extensions d'établissements, la prise en compte des nouvelles bases d'imposition n'intervient qu'au titre de l'année N+2. Il existe, vous le savez, un décalage de 2 ans entre l'augmentation des bases et la période d'imposition. C'est ce qu'on appelle la période de référence. Alors, la mesure qui a été votée dans la loi de finances consiste dans la mise en place d'un dispositif d'exonération de CFE pour une période de 3 ans pour les créations et les extensions d'établissements, mais, et ça c'est important, uniquement sur délibération des collectivités bénéficiaires de cette cotisation, et donc en l'occurrence les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Donc en pratique, l'exonération, si elle est votée, s'appliquera à compter de l'année qui suit celle de la création de l'établissement, ou bien en cas d'extension, de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension est intervenue. Donc, à titre d'exemple, un établissement qui serait créé en 2021 dans une commune qui aurait délibéré en faveur de ce dispositif, eh bien, la chronologie serait donc la suivante. En 2021, pas d'imposition en application des règles générales. En 2022, 2023, 2024, application de l'exonération. Et donc, première imposition seulement en 2025. Alors, une petite précision sur la définition de ce qu'on appelle une extension d'établissement. C'est important, puisque la loi de finances et son article 120 nous donne une nouvelle définition de ce que constitue une extension d'établissement. Donc, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente, revalorisée selon la méthode retenue, soit pour les locaux professionnels, soit pour les locaux industriels. Mais ce qui est important, c'est que sont exclus de ce calcul de la hausse d'imposition, enfin des bases d'imposition, toute une série de causes d'augmentation de la base qui ne résultent pas d'un investissement foncier, comme par exemple les changements de méthode de détermination des valeurs locatives ou encore les changements d'utilisation des locaux professionnels. Voilà pour ce point. Et puis, petite précision sur ce nouveau dispositif pour terminer. Le dispositif s'appliquera uniquement sur demande des entreprises auprès du service des impôts dont relèvent les établissements concernés et dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE. À défaut, l'exonération ne serait pas accordée au titre de l'année concernée et ne courrait qu'à compter de l'année suivante. Et enfin, dernière précision pour terminer, l'exonération de CFE pourra également s'appliquer à la CVAE, puisque en application des dispositions du Code général des impôts, il est prévu que la valeur ajoutée des établissements exonérés de CFE en application d'une délibération d'une commune peut, à la demande de l'entreprise, être également exonéré de CVAE pour la fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Et les autres collectivités bénéficiaires de la CVAE, c'est-à-dire les départements, pourront également décider de voter cette même exonération. Voilà Emmanuel pour ce tour d'horizon rapide des mesures en matière de taxes locales.
Merci beaucoup Valérie. Je vous propose de passer sans transition à d'autres types de mesures également qui ont pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises notamment. Et cette fois-ci, c'est en matière d'impôts sur les sociétés et je cède la parole à Stéphanie.
Bonjour à tous. Donc la loi de finances a introduit un certain nombre de dispositifs qui sont temporaires pour les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Alors certains dispositifs sont pérennes dans le temps, mais majoritairement les nouveaux dispositifs sont temporaires et donc il est important pour les entreprises d'évaluer rapidement s'il est intéressant pour elles d'en bénéficier. Le premier régime concerne les réévaluations libres d'actifs. Alors aujourd'hui, il est possible pour une entreprise de réévaluer les actifs. Cette possibilité est prévue par l'article L123-18 du Code du commerce qui mentionne que cette réévaluation doit porter sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières. Donc, la réévaluation est réservée comptablement aux seuls immos corporels et financiers, à l'exclusion dès lors des immobilisations incorporelles, fonds de commerce, brevets, marques, à l'exclusion des stocks et des valeurs mobilières de placement. Il n'est pas possible non de procéder comptablement à une réévaluation partielle. Dès lors qu'on procède à une réévaluation, il est nécessaire de réévaluer l'intégralité des immobilisations qui peuvent l'être. Comptablement, l'écart de réévaluation qui est égal à la différence entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable, sans prise en compte des amortissements dérogatoires, n'est pas un élément du compte de résultat et est porté dans un poste spécifique des capitaux propres, écart de réévaluation, qu'on voit parfois dans les bilans de nos clients. Et cet écart peut en tout ou partie être incorporé au capital. Il ne peut pas être utilisé pour compenser des pertes. Il est pris en compte dans les capitaux propres à chaque fois que la loi l'exige, notamment tous les dispositifs de perte de la moitié du capital. Et cet écart n'est distribuable que dans deux cas, lors de la cession de l'immobilisation réévaluée, parce que dans ce cas-là, l'écart est transféré dans un compte de réserve distribuable à hauteur du produit de la cession qui excède la VNC avant la réévaluation, ou progressivement au fur et à mesure de la constatation du supplément d'amortissement relatif à la partie réévaluée de l'immobilisation et à condition que l'exercice soit bénéficiaire. Alors fiscalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En l'absence de texte dérogatoire, l'écart de réévaluation augmente l'actif net, ce qui constitue un produit immédiatement imposable en application de l'article 38.2 du Code général des impôts. Dès lors, l'écart est à réintégrer extra-comptablement dans le résultat fiscal et, corrélativement, les amortissements dérogatoires qui étaient éventuellement constatés sur les immobilisations concernées avant l'exercice de réévaluation sont également imposables parce qu'on a une reprise qui est obligatoire sur le plan comptable. Et du fait de leur reprise obligatoire sur le plan comptable, aucune correction extra-comptable sur la base fiscale n'est à effectuer. Donc une fiscalité relativement importante. La loi de finances instaure un dispositif de neutralisation temporaire des conséquences fiscales de la réévaluation. Pourquoi ? Alors, l'objectif de la mesure est d'améliorer les capacités de financement des entreprises, notamment l'accès au crédit bancaire dans le cadre de la crise sanitaire, en leur permettant, sans surcoût fiscal immédiat, d'améliorer la présentation des comptes sociaux. Ce sont les entreprises qui ont des plus-values latentes, qui peuvent avoir des plus-values latentes importantes à leur bilan. La loi de finances n'instaure pas un régime dérogatoire de réévaluation, mais permet, sur option de la société, la neutralisation temporaire de l'imposition de l'écart de réévaluation sous réserve que la réévaluation soit faite dans les conditions qui sont prévues par le Code de commerce. Donc, on n'a pas, dans le cas du nouveau dispositif, d'imposition immédiate de l'écart de réévaluation pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel la société a procédé à la réévaluation. En contrepartie, et un peu comme ce qu'on a en matière de fusion, la société doit s'engager à calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée. Donc, on a un mécanisme de sursis d'imposition qui est mis en place. La société doit s'engager également à réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables sur une période de 15 ans pour les constructions, pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables et sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations. De même, en cas de cession d'une immobilisation amortissable avant la fin de la période de réintégration de l'écart de réévaluation, la fraction non encore réintégrée sera immédiatement imposée. Alors, ce dispositif est temporaire parce que la mesure est applicable aux opérations de réévaluation qui sont constatées au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. En pratique, par ailleurs, une provision ne sera admise sur le plan fiscal que dans l'hypothèse où la valeur réelle de l'immobilisation à la clôture de l'exercice deviendrait inférieure à sa valeur d'origine avant réévaluation, pour coller à la valeur fiscale. Ce qui génère, dans ce cas-là, une possible divergence fiscale comptable, puisque sur le plan comptable, les provisions devront être calculées par référence à la valeur réévaluée de l'immobilisation. Alors, comme en matière de fusion valeur réelle, il va y avoir une obligation documentaire spécifique pour l'entreprise qui choisira d'appliquer le dispositif pour que l'administration fiscale puisse suivre les réintégrations fiscales. Et un état conforme à un modèle qui sera à fournir par l'administration devra être joint à la déclaration de résultat de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants. Donc, cet état mentionnera les renseignements qui seront nécessaires au calcul des amortissements, des provisions, ou des plus-values ou moins-values afférentes aux immobilisations réévaluées. Alors, ce dispositif étant nouveau, on a un certain nombre à la fois de points en suspens, et puis on anticipe des impacts pour les entreprises. Alors, le premier point en suspens, c'est quel sera le traitement fiscal des reprises d'amortissement dérogatoire, parce que le texte ne prévoit pas quel sera ce traitement en cas de reprise massive d'amortissement dérogatoire. Donc, il y a des discussions qui sont en cours avec l'administration fiscale, pour le cas échéant neutraliser le potentiel frottement fiscal. Au niveau des impacts, le caractère optionnel du dispositif doit être analysé entreprise par entreprise selon sa propre situation. N'y a-t-il pas un intérêt de taxer immédiatement le quart de réévaluation en cas d'exercice déficitaire? Y a-t-il un intérêt à opter pour l'étalement? Par ailleurs, comme on l'a indiqué au début, l'écart de réévaluation va être inscrit dans les capitaux propres de l'entreprise, ce qui va potentiellement avoir un impact au niveau de la participation des salariés. Donc, sur ce point-là, on va attendre également les commentaires de l'administration fiscale pour déterminer si cet écart de réévaluation doit être pris en compte dans le cadre du calcul de la participation des salariés. Enfin, il y a un impact sur le régime de l'intégration fiscale parce que l'article 223 Grand 1-1B du Code général des impôts prévoit que la quote-part de déficit correspondant au supplément d'amortissement résultant d'une réévaluation doit être réintégrée au résultat d'ensemble, ce qui génère un suivi complémentaire à faire pour l'entreprise. Par contre, bonne nouvelle, la réévaluation n'aura pas d'impact en matière de taxes foncières ni de CET pour les établissements industriels, car en application des dispositions de l'article 324 AE, annexe 3 du Code général des impôts, qui prévoit que la valeur locative des biens est déterminée sans prendre en compte les réévaluations. Et enfin, dernier point, il faudra déterminer l'impact de la réévaluation sur le calcul des intérêts déductibles, et notamment et également quel sera son traitement en matière de compte consolidé. Second dispositif, à nouveau temporaire, mais que là, on a connu par le passé, c'est un dispositif qui concerne les leasebacks d'immeubles. Alors, toujours dans le but de faciliter le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire, il est prévu, encore une fois sur option, d'imposer de façon échelonnée la plus-value réalisée par une entreprise à l'occasion d'une opération dite de leaseback, consistant à céder un immeuble pour le reprendre immédiatement en jouissance dans le cadre d'un contrat de crédit bail. Comme on l'a indiqué, il s'agit du rétablissement d'un dispositif que l'on connaissait précédemment. Ce dispositif est temporaire et concerne les cessions qui sont réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et qui sont précédées d'un accord de financement accepté par le crédit preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Alors, ce dispositif concerne les immeubles qui sont affectés par le crédit preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des immeubles de placement. Encore une fois, ce régime est optionnel et constitue une décision de gestion qui est opposable au contribuable. Ça peut également dépendre de sa situation déficitaire. L'option de retraite express, elle est matérialisée par la déduction de la part de la plus-value faisant l'objet d'un étalement dans l'aléas fiscal, hein, dans l'imprimé 2058A, puis une réintégration au titre de chaque exercice. Les modalités d'imposition qui sont retenues sont les suivantes. Donc, on va avoir une réintégration de la plus-value par part égale sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail et au maximum sur une durée de 15 ans. Et on a une imposition immédiate du solde si l'immeuble est acquis par l'entreprise, donc en cas de levée d'option, ou si le contrat de crédit-bail est résilié. Donc, dans ce cas-là, le texte précise qu'il est considéré comme une résiliation tout événement mettant fin au lien juridique entre la société de crédit-bail et le crédit-preneur, notamment cession d'activité du crédit-preneur ou cession des droits afférents au contrat de crédit-bail. Et comme pour le précédent régime, l'entreprise devra établir un suivi qui permettra à l'administration fiscale de suivre les réintégrations effectuées. Troisième dispositif temporaire, mais que l'on connaît déjà parce qu'il a été mis en place dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, ce troisième dispositif concerne les abandons de loyer et la sécurisation de la déduction fiscale des abandons de loyer par le bailleur. Donc, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, qui avait été prise en urgence, avait prévu la déductibilité dans leur intégralité des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles qui étaient donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l'article 39.12 du Code général des impôts. Ces abandons de loyers étaient limités à la période aux abandons consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021. Ce délai est prorogé par la loi de finances au 31 décembre 2020. Ce délai est prorogé au 30 juin 2021 par la loi de finances rectificative, par la loi de finances pour 2021. Quatrième dispositif temporaire, ce dispositif concerne à nouveau les abandons de loyer. Un crédit d'impôt est instauré par la loi de finances pour les abandons des loyers qui sont échus au titre du mois de novembre 2020. Alors, le dispositif est vraiment limité aux loyers qui sont échus au titre de ce seul mois de novembre. Le calcul du crédit d'impôt va être le suivant. Il correspond à 50% des abandons consentis qui sont retenus dans la limite des deux tiers du loyer contractuel prévu au titre du mois concerné, si l'effectif du locataire est de moins de 250 salariés au plus. Donc, à titre d'exemple, si le loyer du mois de novembre 2020 est de 3 000 euros et que le bailleur consent un abandon à hauteur de 2 000 euros, soit les deux tiers du loyer stipulé au contrat, le crédit d'impôt sera de 1 000 euros. Le dispositif est encadré et on va appliquer les limitations qui sont visées par la Commission dans le cadre de la crise sanitaire, soit un plafond de 800 000 euros apprécié au niveau de chaque entreprise locataire, ce qui nécessite aussi de connaître la situation de l'entreprise locataire. Au niveau de l'imputation du crédit d'impôt, le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt dû au titre de l'exercice ou de l'année, au titre de l'exercice en matière d'IS et au titre de l'année en matière d'impôt sur le revenu, au cours duquel les abandons ont été consentis et, comme en matière de crédit d'impôt, l'excédent éventuel est restitué.
Merci Stéphanie. Alors, parmi les mesures en matière d'impôt sur les sociétés, nous vous signalons également une petite modification du taux d'ISPME hein, qui, pour rappel, est fixé à 15% dans la limite de 38 120 euros de bénéfices imposables par période de 12 mois. Ce taux s'applique à des entreprises remplissant un certain nombre de conditions mais ayant réalisé un chiffre d'affaires maximum de 7 630 000 euros. Ce plafond de chiffre d'affaires est porté depuis le 1er janvier à 10 millions d'euros, donc étant le périmètre d'application de ce taux réduit. À noter toutefois que le seuil d'application de la contribution sociale de 3,3% n'est pas modifié par la loi de finances. C'est aussi l'occasion de vous rappeler que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2021, le taux d'IS standard est fixé soit à 26,5%, soit à 27,5% si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions d'euros et qu'il devrait en principe être fixé pour 2022 à 25%. Je repasse la parole à Stéphanie qui va reprendre certaines mesures, notamment en matière d'intégration fiscale.
Alors, concernant l'intégration fiscale, et là, on passe à un dispositif qui est pérenne dans le temps, et le mécanisme dit de base élargie, la loi de finances prévoit un élargissement du dispositif en cas d'opérations de fusion ou de scission qui ont été réalisées dans l'ancien groupe. Alors, pour rappel, hein, quand un groupe d'intégration fiscale cesse, cela entraîne en principe le transfert du déficit reportable d'ensemble de ce groupe à l'ancienne société mère qui peut seule l'utiliser. Dans certains cas de passage d'un groupe à l'autre, il est possible de procéder, ce qui est très intéressant, à une imputation des déficits de l'ancien groupe sur une base élargie. C'est-à-dire qu'on va l'ancienne mère et les filiales de l'ancien groupe pourront continuer à bénéficier des déficits. Ce dispositif est notamment applicable dans les cas suivants, donc quand on a une acquisition à au moins 95% de la société mère, quand on passe d'un groupe vertical à un groupe horizontal ou quand on a une absorption ou une scission de la société mère sous réserve de l'obtention d'agréments relatifs au transfert des déficits de l'ancien groupe ou d'une fraction de ces derniers. Dans l'ancien dispositif, il y avait une imputation possible de la fraction de déficit provenant de sociétés de l'ancien groupe qui était absorbée par une société de ce groupe ou scindée après, à partir du moment où l'opération de fusion avait lieu après l'entrée dans le nouveau groupe et sous le régime de l'article 210A du Code général des impôts. Une jurisprudence du Conseil d'État du 28 novembre 2018 est venue dire qu'une telle imputation était impossible si la fusion ou la scission avait lieu avant l'entrée de la société absorbante ou bénéficiaire dans le nouveau groupe. Alors, la loi de finances vient corriger ce point et élargir les possibilités d'imputation. Donc, aujourd'hui, le mécanisme d'imputation sur une base élargie s'applique en cas de fusion ou de scission entre sociétés de l'ancien groupe, même si elles ont été réalisées antérieurement à la cessation de ce groupe et à partir du moment où elles sont placées sous le régime de faveur de l'article 210A du Code général des impôts. Donc, ça entraîne certains ajustements dans les textes, notamment donc le champ d'application de l'agrément relatif au transfert des déficits est étendu à la fraction du déficit d'ensemble qui correspond au déficit des sociétés membres auxquelles appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées dans le cadre du régime de l'article 210A. Et de même, le dispositif est adapté concernant les conséquences de la sortie de la société absorbante du nouveau groupe. On a dans ce cas-là une perte de la fraction de déficit d'ensemble de l'ancien groupe provenant de la société absorbée par cette société dans l'ancien groupe. On devra dans ce cas-là retraiter la quote-part de déficit en cas de sortie de la société absorbante. Le nouveau dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Alors, un ajustement législatif qui est le bienvenu, notamment dans le cadre du contexte de la crise sanitaire, et qui concerne les augmentations de capital qui sont libérées par compensation avec une créance acquise pour une valeur décotée. Alors, dans ce cadre-là, on a un assouplissement des règles fiscales. Donc, pour rappel et à titre d'exemple, si la société A acquiert pour 2000 euros une créance d'une valeur de métal de 10 000 euros sur une société Z, en cas d'augmentation de capital de la société Z libérée par compensation avec cette créance, on a un profit imposable. Le profit imposable de la société qui souscrit à l'augmentation de capital est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie et non de leur valeur nominale, à condition que la société créancière initiale ne soit ni liée à la société émettrice, ni à la société qui a racheté la créance. Cette condition étant appréciée à la date de l'acquisition des titres et au cours des 12 mois qui précèdent ou qui suivent cette date. La loi de finances prévoit un assouplissement des règles fiscales dont, dans le cadre du nouveau dispositif, il n'est plus exigé que l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l'entreprise émettrice lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article 611-8 du Code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement. De même, ce nouveau dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. De même, hein, toujours dans le cadre des procédures de soutien aux entreprises qui sont en conciliation, une nouvelle présomption de déductibilité des abandons de créances à caractère commercial est instaurée. Alors, ce dispositif est applicable aux abandons consentis en application d'un accord, encore une fois, constaté ou homologué dans les conditions de l'article 611-8 du Code de commerce. Il s'agit au cas présent d'une extension des dispositions qui sont déjà applicables dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement et qui sont étendues aux procédures de conciliation. Le nouveau dispositif est applicable aux abandons de créances qui sont consentis à compter du 1er janvier 2021. À titre complémentaire et sur demande des entreprises et toujours dans le cadre d'une procédure de conciliation, il est possible d'obtenir le remboursement anticipé des créances de carryback. Il s'agit encore une fois ici d'une extension du dispositif préexistant qui était applicable en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. Et cette mesure est applicable aux créances qui sont constatées à compter du 1er janvier 2021. Voilà Emmanuel pour...
Merci Stéphanie. Alors, d'autres petites mesures en matière d'impôt sur les sociétés que l'on ne détaillera pas ce matin, on se permet de vous renvoyer à notre e-alerte sur la loi de finances. Il y a certaines mesures en matière de crédit d'impôt recherche. On a également la suppression de l'obligation de joindre à la liasse fiscale la déclaration des positions symétriques, l'obligation de distribution de 70% et plus 60%, comme c'était le cas précédemment, des plus-values réalisées par les SIC. Et puis, un aménagement et une prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 du dispositif prévoyant un taux réduit d'IS sur les cessions de locaux et terrains transformés en logements. Je vous propose, je vous l'annonçais en introduction, de laisser la parole à Chaïd pour qu'il nous dise un mot de l'impact de la crise Covid sur les prix de transfert et des recommandations publiées par l'OCDE en fin d'année dernière. Chaïd ?
Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc en effet, comme tu le disais en introduction, Emmanuel, on sort un petit peu du sujet loi de finances, mais on reste dans son esprit puisque les effets de la crise Covid vont se translater dans les comptes et dans les liasses fiscales dès 2020 et 2021 très probablement, malheureusement. Donc les effets qui sont en grande majorité plutôt négatifs sur l'activité et la performance des entreprises. Alors c'est sûr, il y a certains secteurs d'activité, certains groupes chanceux qui s'en sortent plutôt bien, qui sont résilients, voire qui voient leur activité boostée, mais pour paraphraser un dialoguiste célèbre, ils ne forment pas la majorité du genre. Donc on a plutôt des effets négatifs sur l'activité et la performance qui devront être pris en compte. Alors la question qui était posée à l'OCDE était relativement simple, c'était peut-on déroger, aménager, amender les structures, les modèles, les politiques de prix de transfert pour faire face aux effets négatifs de cette pandémie. Donc là, la réponse qui a été apportée, qui était très 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 attendue, qui arrive un petit peu tardivement, mais heureusement avant la clôture des comptes, ceci dit, l'OCDE a été très occupé cette année. Donc la réponse qui a été apportée est plus descriptive et analytique, alors une analyse d'assez bonne qualité, même de très bonne qualité, plutôt que prescriptive, mais bon, on a quand même des points très intéressants, on a aussi quelques craintes qu'on va évoquer. Donc, pour faire relativement court, donc les recommandations en question qui ont été publiées en fin d'année, comme tu le disais, Emmanuel, donc décembre 2020, réaffirment, voire martèlent un principe central sur lequel on va revenir rapidement et abordent quatre problématiques qui pourraient intéresser toutes les entreprises, notamment cette fin d'année et sur 2021. Donc, la question des ajustements de comparabilité, donc notamment les cibles de profit qui sont attribuées à différents membres du groupe, la question de l'allocation des pertes et des charges spécifiques. Alors, l'OCDE a évité le qualificatif de charges exceptionnelles, on y reviendra peut-être un petit peu, mais ensuite, le traitement des subventions et des aides publiques, notamment l'effet sur les prix de transfert, bien entendu, on reste dans les prix de transfert. Et enfin, l'impact sur les accords de répartition, les accords de répartition de coûts et des accords préalables sur les prix, qui sont des rescrits à l'international. Ces rescrits à l'international sont en général signés pour 5 ans dans la grande majorité des cas. Alors, le principe central, c'est de dire que le principe de pleine concurrence et les recommandations de l'OCDE en matière de prix de transfert s'appliquent pleinement et en l'état. Donc, le rapport, les recommandations de décembre 2020 ne constituent en rien des nouvelles règles, des règles autonomes qui ont vocation à être pérennisées. C'est simplement une précision apportée par l'OCDE sur le traitement de circonstances exceptionnelles, et c'est vraiment souligné très, très explicitement, temporaire, effet temporaire exceptionnel lié à la crise du Covid. Un autre accent, un autre principe martelé également, donc un accent extrêmement fort sur la nécessité de documenter. Alors documenter, pas au sens de la documentation générique des prix de transfert, mais vraiment documenter, expliquer, notamment sur deux pans. Alors démontrer que le groupe dans son ensemble et l'entreprise qui est étudiée au cas particulier subit un effet effectif et réel. Du Covid. Donc, l'OCDE semble condamner les approches un petit peu systématiques, un petit peu globales, ce qui nous semble, par exemple, à titre d'illustration, ce qui nous semble décourager un petit peu ce qu'on voit déjà, des ajustements de profit sur un intervalle bas de l'intervalle bas de comparabilité. Donc, on a des clients qui ont fait ça, qui se sont dit, bon, on va s'aligner en bas, voire on va se mettre à zéro, comme ça, globalement, et puis ça ira bien. Donc, il nous semble que cette approche-là nous semble un petit peu risquée compte tenu du nouveau papier. Le second pan de la documentation, enfin de la justification, c'est véritablement d'expliquer pourquoi, quelles sont les hypothèses retenues, comment a-t-on mesuré comment a-t-on fait de notre mieux pour mesurer l'impact et les modalités de mise en œuvre des ajustements qui pourront être apportés aux politiques habituelles. Alors, sur les quatre points, le premier point qui est un point important, ce sont les ajustements de comparabilité. Alors, juste pour remettre ça en contexte, le plus souvent, évidemment, on a des politiques de prix de transfert qui sont basées sur des taux de rentabilité de pleine concurrence qui reposent sur des études de comparabilité, donc sur des panels de comparabilité et donc sur des bases de données. Donc évidemment, la problématique, c'est qu'on a un décalage dans le temps entre l'année à documenter et la publication, la disponibilité des dites données, souvent un décalage de 1 et le plus souvent de 2 ans. Ce qui veut dire que dans l'exercice de comparabilité pour démontrer ou attribuer une rentabilité de pleine concurrence aux entités considérées, l'effet Covid ne sera visible que sur les données qui seront publiées en 2021 ou plutôt en 2022. Donc, on va être obligé, l'entreprise va être obligée de procéder à des ajustements sur la base de données disponibles et historiques, donc des données qui, par définition, ne vont pas refléter les effets négatifs de la crise. Alors, quelques points. Premièrement, il faut quand même réaffirmer et dire que la bonne chose, c'est que l'OCDE accepte le principe de ces ajustements. Alors, sur les modalités d'ajustement, on n'est pas, encore une fois, ce n'est pas très prescriptif, mais il y a quand même des sujets intéressants, des idées intéressantes. Donc, l'OCDE semble préférer des ajustements plutôt spécifiques que des ajustements globaux. Ajustements globaux, on a vu quelques tentatives ou quelques clients se dire, par exemple, on anticipe une baisse du PIB globalement de X% et on va essayer d'inférer ça et de servir de ça pour ajuster les comparables. Alors, l'OCDE ne condamne pas cette approche-là, reconnaît même qu'elle pourrait être utilisée, ces facteurs un peu macroéconomiques, mais d'un point de vue plutôt contextuel et ne pas constituer la référence unique et le repère unique pour faire un ajustement. Elle va préférer des ajustements qui sont plutôt spécifiques et elle va prioriser l'utilisation de données les plus contemporaines possibles. Alors, elle cite elle-même, on pourrait probablement utiliser des données publiées de manière sectorielle sur à la mi-année ou à ce jour dans le secteur de l'automobile. Voilà l'impact du Covid, les ventes ont baissé de X% sur ce secteur en particulier. Donc voilà, plutôt des données les plus contemporaines possibles, mais qui sont quand même spécifiques et pas globales, le plus adapté possible. Un point aussi intéressant, le CDE évoque la possibilité de recourir à des données internes qui sont notamment sur les budgets. Donc, les entreprises ont établi des budgets avant Covid et puis tout à coup, la crise intervient et évidemment, quand on fait des clôtures intérimaires ou intermédiaires au cours de l'année, on voit bien que les budgets ne sont pas tenus et on est capable de mesurer le différentiel budget réel. Donc, ce différentiel-là, le CDE nous suggère de s'en servir pour ajuster, évidemment, le plus souvent à la baisse, les objectifs de rentabilité qui avaient été fixés aux filiales, dites le plus souvent de routine. Alors, on a vu aussi quelques tentations pour essayer de se référer à des crises d'ampleur à peu près similaires en termes d'impact financier, des crises passées, essayer d'en mesurer l'impact et puis mesurer l'impact passé de ces crises donc qu'on connaît et puis de les d'appliquer un petit peu cette même variance à la crise Covid anticipée. Donc c'est notamment la crise financière 2008-2009. Là, l'OCDE semble complètement condamner l'approche compte tenu de la nature extrêmement spécifique de la crise sanitaire. Donc, et enfin, c'est une bonne chose. L'OCDE va inviter, alors plutôt les administrations fiscales, à plus de flexibilité, notamment sur le principe d'indépendance des exercices. Donc, reconnaître que, comme on aura une déficience d'information à la clôture, par exemple, de 2020 sur les effets réels du Covid au moment où on clôturera les comptes, l'OCDE invite à plus de flexibilité, notamment en permettant, d'une part, en France, c'est déjà possible, mais en permettant d'une part des ajustements extra-comptables, donc dans l'alias fiscal après clôture des comptes, mais aussi, et là c'est plus intéressant côté français, recommande une flexibilité sur un ajustement d'une année sur l'autre, donc une petite entorse au principe d'indépendance d'exercice, ce qui est assez intéressant. J'évoquais en introduction une problématique, une crainte qui sont les accords pluriannuels. Donc l'OCDE semble suggérer que lorsqu'on a des accords qui fixent des rentabilités cibles sur 5 ans, par exemple, ben là, probablement, les ajustements qu'on est en train d'évoquer ne seraient pas possibles. Donc, l'allocation des pertes et des charges spécifiques, là, c'est la bonne nouvelle. Le principe est reconnu, on peut allouer des pertes, même à une entité dite de routine à risque limité, ce qui est plutôt positif. Là, encore une fois, l'OCDE prend soin de nous préciser qu'il faut être en mesure de démontrer qu'une entreprise indépendante aurait procédé de la même manière et n'aurait pas eu d'options raisonnablement ou économiquement soutenables en alternative. Donc, l'OCDE reconnaît cette allocation, reconnaît aussi le recours à la force majeure avec les mêmes réserves sur la nécessité de documenter et d'expliquer que c'est tout à fait conforme au principe de pleine concurrence. Les subventions et aides publiques, là encore, l'OCDE nous dit que ça peut constituer un facteur économique qui doit être pris en compte dans la fixation des prix, mais elle exprime une crainte sur les mécanismes un petit peu automatiques qui pourraient aboutir à partager ou à transférer l'aide nationale à l'étranger, notamment par exemple si on est en coste plus et qu'on a une subvention qui fait qu'on va baisser les charges par exemple de salaire. Là, dans ce cas-là, la base du coste plus va être diminuée, donc la rémunération locale va diminuer, et ce qui va entraîner un transfert à l'étranger de l'avantage ou de l'aide nationale. Donc là, beaucoup de prudence. Enfin, et pour finir, sur les accords de répartition de coûts, donc les accords de préalable sur les prix, donc on s'est mis d'accord avec une administration pour avoir une certaine rentabilité sur 5 ans. Là, ces accords restent pleinement applicables. L'OCDE est très ferme sur l'interdiction quasiment faite d'opérer des ajustements unilatéraux, donc l'entreprise ne peut pas ou ne devrait pas modifier les conditions de cet accord elle-même. Il faut absolument que ce soit fait avec les administrations et dans le cadre des discussions normales et annuelles de réévaluation de la mise en œuvre de ces accords. Donc voilà pour ce qui est de ce papier très attendu et je pense assez intéressant tout de même.
Oui, tout à fait. Merci Chaïd pour ces commentaires qui concluent notre partie sur l'impôt sur les sociétés. Et je vous propose qu'on enchaîne avec les taxes indirectes et José qui va nous parler en premier lieu des offres complexes et des offres composites. À toi José.
Bonjour à tous. Alors le premier dispositif concerne les opérations complexes et le régime TVA appliqué dans ce genre de situation. Alors par opération complexe tout d'abord, nous sommes en présence d'une opération qui comprendra donc plusieurs éléments pouvant chacun faire l'objet d'une qualification d'un régime TVA donc différent et bien souvent faisant l'objet d'une seule facturation. Donc nous sommes en présence par exemple d'une vente de biens avec un service ou bien alors donc vente d'un livre avec un CD. Nous avons des règles différentes de taux de TVA ou d'exigibilité. Afin de régler le traitement TVA à ce type d'opération, la Cour de justice a développé une grille de lecture avec un principe qui est que lorsque nous avons plusieurs opérations distinctes, celles-ci doivent être traitées séparément et suivre leur propre régime TVA. Toutefois, il est possible que lorsque ces éléments sont mis côte à côte, ils constituent un seul élément. Et il convient donc, dans ce cas-là, pour essayer d'identifier cette prestation dite unique, de prendre en considération l'ensemble des circonstances. Donc, on va faire une analyse au cas par cas afin de déterminer si nous sommes sur des opérations distinctes, une opération unique. Pour arriver à cette qualification de l'opération unique, la Cour de justice propose donc deux grilles d'analyse. La première est d'identifier si deux ou plusieurs éléments qui sont fournis sont si étroitement liés, soit elles forment objectivement une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition serait totalement artificielle, ou bien alors elles présentent une importance équivalente et sont toutes indispensables pour la réalisation de l'opération. Donc nous sommes en présence d'une opération unique du fait que chaque composant est de valeur équivalente et on ne peut pas les séparer les uns des autres. Deuxième cas donc d'identification d'une prestation unique, là nous sommes en présence là encore d'un et de plusieurs éléments, dont l'un ou plusieurs seront la prestation principale, ou l'élément principal, et les autres éléments seront identifiés comme accessoires. Par accessoire, il conviendra donc de considérer qu'il s'agit d'un élément qui ne constitue pas une fin en soi pour la clientèle, mais simplement le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions possibles de la prestation principale. Alors maintenant, si l'on regarde le dispositif, donc le Code général des impôts va désormais intégrer totalement ce raisonnement donc de la Cour de justice, qui est également repris depuis un certain temps par le Conseil d'État, et également repris par l'administration fiscale. Sachant que l'administration fiscale, jusque-là, n'avait pas posé le principe général tel que je vous l'ai exposé au niveau de la Cour de justice et du Conseil d'État, et fonctionnait plutôt par petites touches en fonction donc des secteurs. Donc nous avons des règles de ventilation qui sont encore imposées en matière de livres, une règle d'attribution de quote-part forfaitaire lorsque l'on est sur les produits plus en matière de presse, et également certaines dispositions qui faisaient déjà référence donc au raisonnement de la Cour que je viens de vous exposer. Désormais, le Code général des impôts donc intègre le raisonnement donc que je vous ai exposé, et il conviendra de faire une appréciation de l'ensemble d'un point de vue du consommateur. Donc on va se positionner d'un point de vue consommateur moyen pour essayer d'évaluer en tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. Donc il va falloir appliquer les principes de la Cour en se mettant donc dans une analyse casuistique et ensuite donc déterminer si je suis en présence de prestations distinctes ou prestations uniques avec les deux modalités, la prestation unique sur la base donc d'une opération de plusieurs opérations de valeur équivalente ou alors un accessoire versus un principal. Deux points importants, exclusion des agences de voyage de ce régime et deuxième élément concernant le taux de 2-10, lorsque l'opération principale sera donc à 2-10, l'accessoire ne pourra pas en bénéficier en raison d'une clause de gel qui interdit une extension du champ d'application de ce taux de TVA. Il faudra donc continuer la ventilation. Alors, après avoir déterminé si nous sommes en présence d'une opération unique, quel est le taux qui sera appliqué? Alors, tout va dépendre de la nature de l'opération unique. Si l'opération unique est identifié en raison d'éléments de valeur équivalente, on prendra le taux le plus élevé. Lorsque l'on sera dans une opération unique où nous avons un principal et un accessoire, c'est le taux de l'élément principal qui s'appliquera à l'ensemble des éléments accessoires. Donc, il pourrait tout à fait s'agir d'un taux réduit pouvant s'appliquer à l'ensemble des éléments donc accessoires. Alors voilà ce qui concerne donc ces opérations complexes. Ensuite, vous avez des opérations, des commentaires plus spécifiques en matière d'offres composites avec des services donc numériques, avec une disposition très particulière afin donc de cantonner l'application donc du taux réduit. Je propose d'aller au slide suivant, compte tenant du caractère très sectoriel de cette mesure, pour enfin donc terminer cette présentation, qu'à cette occasion, l'administration fiscale également a souhaité faire un peu un nettoyage d'écriture des articles du Code général des impôts, afin donc de clarifier les prestations qui peuvent bénéficier du taux réduit des produits qui font eux-mêmes l'objet de l'opération. Par exemple, tout ce qui serait prestations de services de façonnage, prestations donc d'intermédiaire, etc. Tout d'abord, nous avons une simplification rédactionnelle. On parlera désormais de livraison pour appliquer le taux réduit sur les différents produits alimentaires, santé, etc. Par exemple, les termes commission et courtage disparaissent pour être remplacés par services d'intermédiation, sachant que ces services d'intermédiation ne s'appliqueront pas à tous les produits aujourd'hui éligibles à un taux réduit. Donc, il faudra faire une lecture attentive des différents cas. Il y a clairement un changement entre avant et après le 1er janvier. Enfin, les prestations à façon, quant à elles, pareil, donc ne seront appliquées. Donc, la prestation de façon ne pourra bénéficier du taux réduit du produit obtenu que pour le cas donc des produits d'origine agricole. Les autres cas où la prestation de façon pouvait bénéficier du taux réduit va disparaître. Il faudra là encore faire une application attentive donc de ces nouveaux textes. Voilà ce qu'il y a des dispositifs.
Non, je voulais te demander, est-ce que justement on peut se demander si cette mesure apporte la sécurité juridique attendue par les entreprises? Est-ce que les entreprises disposent de règles claires désormais sur ce sujet?
Alors oui, il faut quand même reconnaître le progrès, puisqu'on a clairement maintenant donc une appropriation pleine et entière du raisonnement des cours. Donc la grille de lecture est posée, mais elle repose toujours sur une analyse au cas par cas. Il faut toujours faire référence aux jurisprudences qui donnent des interprétations. Qu'est-ce qu'une opération accessoire? Elle n'est pas définie, là encore, par l'administration fiscale. Donc il faudra se référer à d'autres situations. Par exemple, le caractère facultatif a pu être un élément qui devient de plus en plus important dans l'analyse. Et j'ai envie de dire, c'est à la fois aussi donc une obligation pour les entreprises de refaire un tour de piste donc de leur politique de gestion des taux, d'exigibilité ou de territorialité, sachant que les mesures aujourd'hui, on a à peu près identifié 30 mesures prévues par la doctrine fiscale qui devraient donc sauter du fait de ce principe général. Donc il faudrait identifier s'il s'agit d'une opportunité ou au contraire peut-être d'une situation moins avantageuse pour les entreprises.
Ok, merci José. On te retrouve tout à l'heure. Je passe la parole à Laurent qui va nous parler de facturation électronique.
Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, cette grande réforme, pour que vous sachiez, s'inscrit dans le cadre d'un plan de modernisation de la vie économique et du contrôle fiscal, à l'instar, comme vous le savez, d'autres pays étrangers qui sont déjà bien en avance sur la France, malheureusement. Plusieurs dates à retenir pour cette réforme. 3 novembre 2020, la remise par la DGFiP au Parlement de son rapport sur le modèle cible. De décembre 2020 à fin 2021, la réalisation de différents ateliers de travail complémentaires entre la DGFiP, la IFE et l'ensemble des acteurs. Septembre et décembre 2021, une ordonnance et un projet de loi de rectification seront prévus. Et 2022, des tests techniques entre les plateformes et un plan d'accompagnement pour les entreprises pour, in fine, une application effective de cette réforme dès 2023 jusqu'en 2025. La réforme répond à 4 objectifs majeurs, celui de renforcer la compétitivité des entreprises, lutter contre la fraude, renforcer le pilotage des actions gouvernementales en captant finalement au fil de l'eau l'ensemble des transactions des entreprises et simplifier le processus déclaratif CA3 par son pré-remplissage à moyen terme. Pour atteindre ces objectifs, la DGFiP a donc retenu un modèle mixte, reposant à la fois sur une obligation de facturation électronique ou invoicing et une obligation de transmission des données complémentaires, reporting, le tout via la plateforme étatique COSPO qui est déjà, comme vous le savez, utilisée pour les flux privés publics et qui sera, elle, chargée d'opérer les contrôles et recoupements des données ainsi transmises. Si on fait maintenant un focus sur l'obligation de facturation électronique, tout d'abord, il faut savoir que 2 modèles ont été présentés par la DGFiP, mais un seul a été privilégié, le modèle dit en structure Y, mettant en œuvre la collaboration outre Chorus Pro de plateformes privées certifiées par la DGFiP, qui joueront finalement le rôle de relais pour extraire et transmettre les données à l'administration et envoyer les factures aux clients. Le tout agrémenté d'un mode de clearance pour le contrôle et le recoupement par les plateformes et d'un suivi des sociétés via une nouveauté, un annuaire national tenu par Chorus Pro, dont la clé sera le numéro Sirène. 4 points doivent être tenus pour cette obligation. Le premier, sur le champ d'application, il sera limité aux flux B2B domestiques avec ou sans TVA et aux assujettis établis en France sous réserve de dispenses spécifiques. Les étrangers, il faut savoir, ne seront pas visés par cette réforme. Deuxième point, la mise en œuvre progressive de l'obligation avec une obligation de réception pour tous dès 2023 et un étalement de l'obligation d'émission de 2023 à 2025 suivant la taille des entreprises selon les critères INSEE. Troisième point, une souplesse des formats acceptés de factures en émission et réception. Aujourd'hui, comme vous savez, ils sont libres, mais on s'oriente à terme vers des formats structurés de type EDI ou XML avec possibilité de formats mixtes incluant lisible comme la facture X et une tolérance temporaire pour les flux PDF natifs, notamment pour les PME TPE. Enfin, quatrième point, un enrichissement est prévu des mentions obligatoires avec notamment le numéro Sirène, comme je l'ai dit, l'adresse du ship-to, qui est un élément important, ou celui de la réalisation du service, et des informations diverses qui peuvent être facteurs de complexité, comme l'identité du transporteur. Si on passe maintenant au focus sur l'obligation de e-reporting, 3 données complémentaires sont visées par cette réforme, et elles visent à compléter l'obligation de invoicing et renforcer la lutte contre la fraude. 1. Pour les flux B2B domestiques, les données liées au statut et à la date des factures pour sécuriser notamment l'éligibilité des prestations de services seront demandées, le tout via des flux retour par le client, ce qui implique donc, et c'est important, une obligation de e-reporting aussi pour le client. Deux, les données des transactions B2C, domestiques ou non, incluant les ventes à distance. Et trois, celles des flux B2B non domestiques, intracommunautaires ou hors UE, qui sont l'objet de beaucoup de fraudes. On attend ici des précisions sur le format, le calendrier et la périodicité de cette obligation. Sur ce point, il peut être envisagé, par exemple, dans les premiers textes, une transmission au fil de l'eau ou périodique qui sera ajustée selon la spécificité des organisations, utilisation ou non d'outils comptables, facturation ou encore pour les logiciels de caisse via le ticket Z, par exemple. Afin de mettre en œuvre la réforme, différents travaux réglementaires, législatifs et d'arbitrage seront nécessaires. S'agissant des travaux législatifs, ils seront menés notamment sur les modalités d'émission et de réception des factures, le format et la définition de la facture, la nouvelle mention de facture et surtout la création d'une nouvelle condition sur le droit à récupération, si dépôt sur la plateforme et acceptation express par le client. Bien entendu, ces chantiers seront possibles sous réserve d'obtenir des dérogations après de la Commission européenne sur ces principes clés de la directive TVA, comme ça a été le cas pour l'Italie en 2020, et en particulier sur le sacro-saint principe d'acceptation de recevoir des clients qui est applicable, comme vous savez aujourd'hui, en cas d'adoption de factures électroniques. À noter enfin que la DGFiP n'entendrait pas modifier certaines dispositions actuelles, comme le dispositif de sécurisation et de contrôle des factures via l'ED fiscal, la signature électronique et surtout la PAF, dont l'utilisation a été confortée par la DGFiP comme un outil pertinent pour la gouvernance et le contrôle. S'agissant maintenant des travaux d'arbitrage à venir, il faut savoir que la DGFiP, comme c'est un grand projet, a constitué une direction de projet pour la mise en œuvre de la réforme. Différents ateliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de 5 thématiques présentées ici, seront menés jusqu'à fin 2020, avec l'ensemble des acteurs, dont, et c'est important de le souligner, PwC. Parmi ces ateliers, sans pouvoir tous les citer, bien évidemment, d'autres points déterminants restent à clarifier, comme par exemple celui de la typologie des factures couvertes, factures standard, on parle de proforma, facture avoir individuel, globaux, note de débit, escompte à compte, vente multicommande, livraison, qui sont des facteurs de complexité. Tous les cas métiers de facturation spécifique aussi, quid des débours, l'autofacturation, autoliquidation, factoring, échéancier de paiement. On peut aussi citer aussi le remboursement des frais, les représentants fiscaux, le sort aussi des opérations particulières pour le quid des livraisons des biens dans les DOM, des opérations extraterritoriales entre assujettis français ou encore sur les chaînes de transactions. La liste exhaustive des données requises fiscales, commerciales ou métiers est très attendue également. La périodicité des transmissions des informations, est-ce qu'on parle de temps réel pur, de semi-réel ou de périodique, et encore les garanties, et c'est très très important, offertes par le contribuable, par la DGFiP sur le contrôle des données transmises, ou encore les modalités de rejet et les impacts actuels sur la réglementation CFCI et fichiers des écritures comptables notamment.
Merci Laurent. Alors en synthèse finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réforme et quelles actions peuvent être conduites à court ou moyen terme ?
Alors effectivement, même si de nombreux points restent à clarifier, les idées clés à retenir à date sont une double obligation, vous l'avez compris, invoicing et reporting, avec de nouveaux acteurs, Chorus Pro, mais surtout des plateformes privées certifiées chargées de contrôler les données. Donc je vous invite à communiquer avec vos plateformes si vous les utilisez. Tous les flux seront visés, B2B et B2C domestiques ou non, et les informations liées au paiement avec un retour par le client. Utilisation à terme quand même d'un format de facture structuré ou mixte, quand même pour traiter ces données par l'administration. 2023, obligation pour tous de recevoir, d'accord, et agenda progressif pour l'émission jusqu'en 2025, et c'est-à-dire plus de factures papier en 2025 pour les flux de B2B domestiques, mais forcément le papier est maintenu pour les autres transactions qu'on n'utilise pas de la facturation électronique. Pour conclure cette présentation, Emmanuel, et vous l'avez compris, compte tenu de la complexité du modèle envisagé, il est donc fondamental d'anticiper la réforme dès maintenant en mode projet afin, par exemple, d'identifier une équipe référente chargée de suivre ces travaux jusqu'en 2021-2022 et assurer la conduite du changement en interne, notamment avec les équipes IT, contrôle interne, comptabilité, pour sécuriser l'existant et réfléchir déjà sur le target operating model, à savoir ma capacité à recevoir, à émettre, mes liens avec mes plateformes, le pilotage de mes contrôles et enfin, surtout renforcer la gouvernance, vous l'avez compris, c'est clé maintenant, et la qualité des données via l'utilisation de solutions agiles de data analytics. Voilà Emmanuel.
Merci. Merci Laurent. Je vous propose qu'on retrouve José qui va nous parler du groupe TVA.
Alors, merci beaucoup. Alors, voilà, je vais faire donc groupe TV en quelques minutes. Donc, le plus simple, c'est un dessin plus que de l'écrit. Vous avez ici donc une photographie pour introduction sur en l'absence d'un groupe TV avec un groupe TVA. Deux mots d'introduction, le groupe TV est une option prévue par la directive. La France a décidé d'entrer dans cette option. Donc, je ne vais pas revenir sur l'historique qui est lié à la restriction maintenant du champ d'application d'une autre exonération prévue pour les groupements autonomes donc de personnes au 261B pour lesquels donc le secteur bancaire et financier désormais donc est exclu donc du bénéfice. Il fallait donc pour la France trouver un mécanisme permettant de maintenir un certain nombre donc de dispositifs permettant d'éviter certaines permanences en matière de TVA. Donc, gauche, vous avez donc un groupe de sociétés avec trois assujettis. Chacun a son existence, son numéro de TVA. Ils se facturent entre eux donc des prestations. Tout se passe bien. Toutefois, dans certains cas, ces flux intra-groupes sont susceptibles de créer des frottements TVA en interne, tout simplement soit parce que certaines entités n'ont pas un droit à récupération intégrale, donc nous avons une première émanence de la TVA, ou alors la facturation au niveau d'un prestataire est exonérée, ce chiffre d'affaires exonéré veuillant dégrader donc le droit à récupération également du prestataire. Donc, afin d'éviter ce genre de situation, il existe donc ce dispositif du groupe TVA, vous voyez à droite du slide, sur ce groupe TVA, donc chaque entité disparaît. Ils deviennent maintenant des secteurs d'activité distincts, ils n'ont plus de déclaratifs attachés. Ils auront toujours un numéro de TVA pour une utilisation très limitée et nous aurons un seul assujetti unique qui va donc regrouper l'ensemble donc de ces entités. L'assujetti unique sera également le seul interlocuteur dans les opérations d'achat et de vente vis-à-vis des tiers, donc ce qu'on appelle aux bornes donc du groupe. Donc maintenant, si l'on va sur le slide suivant, en quelques mots, le groupe TVA, vous l'avez bien compris, c'est un assujetti unique qui efface l'identité TVA de ses membres. Alors, pour être membre, il faudra remplir un certain nombre de conditions cumulatives, qui sont nombre de trois. Il faut avoir un lien financier, économique et organisationnel. Nous verrons en quelques mots en quoi cela consiste. Et surtout, deuxième élément, il faut que les membres donc, soient établis donc, sur le territoire français, que ce soit un siège ou un établissement stable. Donc, un établissement stable français d'une société étrangère pourrait tout à fait être membre du groupe TVA. Par contre, dès lors que les établissements stables sont situés à l'étranger, ils ne peuvent pas donc être membres du groupe TVA. Deuxième point, le groupe devra disposer d'un représentant qui sera désigné parmi les membres. Ce dernier donc devra accomplir l'ensemble des obligations déclaratives et déposera la déclaration de TVA unique et procédera également au remboursement du crédit de TVA unique. Pour autant, les membres resteront solidaires au paiement de la TVA en cas de défaillance du représentant à hauteur de ce qu'ils auraient dû payer si le groupe TVA n'avait pas été mis en place. Enfin, c'est un régime optionnel qui doit être donc qui entre en vigueur au 1er donc janvier 2023. Il faut donc que l'option soit exercée avant le 31 octobre 2022 pour un effet au 1er janvier de l'année suivante pour 3 ans. Au bout des 3 ans, l'administration fiscale fera d'ailleurs un bilan donc sur les impacts de cette nouvelle mesure. Le régime est optionnel, il faut qu'une déclaration soit formulée par le représentant en et de son centre des impôts avec un certain nombre de formalités administratives donc attachées. Maintenant, si on passe au slide suivant, merci beaucoup. Sur les liens donc évoqués, liens financiers, liens économiques et liens organisationnels, le lien financier, c'est un lien donc basé sur le contrôle direct ou indirect, soit par une détention de plus de 50% du capital ou 50% des droits de vote. Ce critère est assez classique, il existe déjà par exemple pour le paiement consolidé de la TVA, qui est un autre mécanisme qui lui va continuer donc à fonctionner. Sont écartés ce dispositif, pas besoin de remplir ce critère, certaines institutions non capitalistiques, telles que les institutions de prévoyance, assurance et banques mutualistes. Le lien économique, il s'agit de l'exercice d'une activité principale de même nature, ou bien d'activité interdépendante, complémentaire, ou une activité avec un objectif commun, ou alors réaliser donc des services ou des prestations au profit donc d'autres membres. Enfin, d'un point de vue organisationnel, il s'agit d'identifier une direction commune ou au minima une organisation d'activité donc en concertation. Ces critères doivent être remplis à l'entrée et également durant toute l'existence du groupe TVA, sinon les membres donc devront être exclus de plein droit. Un point important, une personne donc assujettie ne peut être membre que d'un seul groupe et un groupe ne peut pas être le même membre d'un autre groupe. Si on continue sur le régime, les conditions, l'entrée et sortie, donc assez encadrée durant ces 3 premières années de surveillance, entre guillemets. Ce qui est important, c'est que si un membre ne s'est pas manifesté lors de la création du groupe et qu'il remplisse les conditions, il ne pourra pas y rentrer, il faudra qu'il attende 3 ans. Inversement, il y aura des conditions de retrait, donc de plein droit qui vont exister, soit parce qu'un des membres ne remplit plus les conditions de lien évoquées précédemment, ou alors un retrait volontaire, mais celui-ci ne pourra être autorisé qu'au bout de 3 ans, c'est-à-dire donc au 1er janvier 2026. Deux éléments encore d'organisation, obligation de communiquer une liste donc, des membres du groupe auprès de l'administration fiscale le 31 décembre de chaque année, et enfin l'entrée ou la sortie donc, par un membre donc, dans ce groupe unique constitue un transfert d'université au sens de l'article 257 bis avec l'ensemble des dispositions de dispense de TVA. La cessation du groupe, elle se fera automatiquement dès lors que l'avant-dernier membre ne remplit plus les conditions de lien évoquées précédemment. Pour terminer sur la présentation donc, de ce groupe, alors je voulais simplement marquer un point, c'est que les membres vont garder malgré tout une personnalité TVA limitée. Par exemple, on va retrouver leur personnalité TVA au niveau des options qui se feront à leur niveau, ce qu'on a donc à leur niveau, donc on parlera de secteurs d'activité distincts, d'un point de vue options taxation bancaire ou options sur les débits. Le numéro de TVA continuera à être attaché à ces entités, mais pour autant, elle pourra servir que de façon limitée pour certaines opérations intracommunautaires. On attend des précisions sur ce point et également pour les besoins des contrôles internes. Les membres devront toujours tenir une comptabilité interne retraçant l'ensemble des opérations. Enfin, l'administration fiscale pourra les contrôler chacun des membres, puisque ces derniers tiennent la comptabilité donc, de leurs activités. Enfin, comme évoqué précédemment, la défaillance du représentant emporte une solidarité de paiement donc, du membre. Enfin, compte tenu de l'existence de cet assujetti unique et un peu en parallèle avec, par exemple, l'intégration fiscale en matière d'IS, les règles de contrôle donc, ont été aménagées pour permettre à la fois un contrôle au niveau des membres, tout en gardant donc, le principe du paiement de la mise en recouvrement au niveau donc, du représentant de ce groupe, avec également des aménagements particuliers pour permettre plusieurs vérifications sur une même période, puisque différents membres peuvent être donc audités pour la même période. Et enfin, les contrôles sur place donc des crédits de TVA. Voilà à peu près donc dans ces grandes lignes le portrait robot du groupe TVA qui devra être affiné par l'administration fiscale.
Et finalement, José, justement, quels sont les points d'attention qui restent en suspens et pour lesquels nous attendons des précisions sur 2021?
Alors, rapidement, les points d'intention pour lesquels également on attend des réponses de la part de l'administration fiscale qui va aussi observer la mise en œuvre de ce régime. Donc, le régime n'est pas totalement défini. Tout d'abord, il concerne l'ensemble des opérateurs, donc tous les secteurs d'activité sont concernés. En premier, comme vous l'avez compris, le secteur bancaire et financier qui a clairement un enjeu de rémanence TVA, de non-récupération et de l'exonération. Les autres opérateurs pourraient tout à fait en bénéficier pour des raisons donc pratiques. On supprime les flux internes, donc simplification des traitements. Toutefois, l'effet collatéral qui aujourd'hui est encore sur la table et pour laquelle, pour l'instant, l'administration a une position assez défavorable est de considérer que les flux internes sont des flux non taxables de nature à générer un assujettissement à la taxe sur les salaires. Ce qui ferait donc pour les opérationnels un désavantage certain en termes donc, de coûts financiers, puisque jusque-là, donc, ils échappaient en créant ces flux internes donc, au groupe, on craint un assujettissement à cette taxe. Donc, ce point-là méritera d'être clarifié. Après, on attend beaucoup de précisions. Les règles de droit à déduction au niveau donc, du groupe, comment je vais exercer le droit à déduction donc, de ces dépenses. Les règles de facturation, puisque les entités donc, contractantes s'effacent derrière un assujetti unique, comment j'organise ma facturation, les mentions par exemple. Taxe sur les salaires, je l'ai évoqué. Les relations transfrontalières, siège succursale, là encore, du fait de l'existence d'une personnalité propre donc au groupe, une succursale logée dans un groupe devient elle-même une entité séparée et donc je fiscalise la relation entre le siège et la succursale, ce qui n'est pas la règle. Donc là encore, des frottements TVA anticipés. Enfin, on attend bien sûr le format de la nouvelle déclaration de TVA et plein d'autres aspects pratiques, par exemple les autres taxes annexes qui peuvent être donc déclarées en même temps que la déclaration de TVA principale. S'agit-il aussi d'une déclaration unique? Là encore, donc beaucoup d'éléments pour lesquels on attend des précisions de la part de l'administration fiscale, règlement, décret et BOFIP.
Parfait, merci beaucoup. En conclusion sur cette partie taxes indirectes et également de cette conférence, on vous met à l'écran quelques mesures qu'on ne détaillera pas pour des contraintes de temps, mais là encore, on se permet de vous renvoyer à notre e-alerte. Nous espérons que cette conférence a été utile, qu'elle vous aura permis de décrypter toutes ces évolutions législatives avec un peu plus de clarté. Il me reste à vous rappeler que, bien évidemment, toutes les questions que vous avez postées dans le chat, comme je vous l'ai indiqué, seront répondues et on reviendra vers vous. N'hésitez pas, nous sommes bien évidemment à votre disposition. Dans quelques instants, vous allez également voir un petit questionnaire de satisfaction apparaître sur votre écran. Si vous pouviez y consacrer quelques minutes, ce serait également très utile pour nous. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous, merci à tous les speakers et puis à très bientôt. Au revoir.